nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Enfermez sur vous-même pour ne pas répondre, car vous avez honte et vous trouvez que les gens n'ont pas à connaître les moindres recoins de votre âme. Et en plus, plus vous enfermez, plus les autres vous attaquent, vous questionnent, vous traitent de tête à claque, etc. Vous êtes incompris. Ceux qui font cela pour vous aider et vous comprennent de moins en moins et ont de plus en plus des idées fausses et du pourquoi de ce que vous avez fait. Cela vous énerve de les entendre dire que vous avez fait ce geste pour une chose terre à terre alors que c'était pour quelque chose de beaucoup plus grand, mais qu'ils sont énervés par vous qui ne leur répondez pas. Ils prennent un malin plaisir à rabaisser votre geste, car en l'abaissant, ils se rehaussent. Ils seraient jaloux de vous rehausser, vous, par votre geste. Vous, vous laissez faire, vous laissez dire, mais vous enragez. Vous pouvez me croire sur parole, celui qui écrit en a eu plus d'une fois la preuve. Donc voilà en gros comment on traite les pauvres êtres qui ont raté leur suicide. Si vous voulez vraiment les aider, médecins, amis, famille, laissez-les en paix. Ne leur posez pas de questions, ne leur parlez jamais du passé ni de leurs gestes. Ce sont des choses à eux qui veulent garder et oublier tout seuls. Je vous jure que c'est vrai puisque moi-même, etc., etc. Heureusement pour Charles-André, du point de vue famille, il n'a pas été ennuyé. Parce que sa famille, à part sa sœur, personne ne l'a su. Et quant à sa sœur, elle ne l'ennuie pas pour lui poser des questions. comme elle aussi a passé par une mauvaise période. Elle sait instinctivement qu'il ne faut pas ce qu'il ne faut pas faire, car pour elle aussi ça n'a pas été facile. Elle a eu de grandes périodes de cafard, goût à rien, et souvent elle aimerait retomber dans l'opium. De cela, elle le cache et ne veut pas l'ennuyer avec ses ennuis. Le retour à la vie normale, aux horaires réguliers, à cause du travail, cela n'est pas facile. Alors que l'on vivait des mois en dehors du temps et de la société, elle a l'impression d'être retournée dans un tourbillon bouillonnant de gens qui crient, rient, bougent. Mais elle a une volonté de faire et son jeune âge l'y aide. Elle suit bien les conseils du médecin, se couche tôt et évite de rester enfermée seule, car lorsqu'on est seul, c'est là que le démon vous tente le plus. Donc, pour éviter de rester chez elle trop longtemps, elle prend ses repas au restaurant et, jour de congé, elle va voir son frère, ce qui fait qu'elle est toujours entourée. Quant au médecin qui soigne Charles-André, il est un jeune homme grand, mince, brun, le visage très sympathique. Il n'a pas encore pris le pli du médecin, c'est-à-dire le recul du médecin vis-à-vis de la vie des gens. Ce côté qu'ont les médecins à voir les gens de haut et d'une façon dédaigneuse. Non, lui est encore proche de la vie et donc comprend mieux les gens qu'il soigne. Et comme il est jeune, il connaît les faiblesses humaines, ne se les cache pas et ne les cache pas. Plus tard, lorsqu'il sera un médecin expérimenté, un monsieur, il s'éloignera de la vie, des faiblesses des humains, regardera avec dédain les gens qui ne sont pas de sa corporation comme des sous-hommes, des faibles, qui ne savent pas ce qu'ils savent eux. Le médecin sera devenu un notable plus qu'un médecin. Mais ce jeune médecin n'en est qu'à ses débuts et c'est bien pour Charles-André. Le jeune médecin a connu et connaît l'amour, le désespoir, l'envie de mourir, le droit au doute, à l'avenir et a droit à quelques expériences qui lui ont fait comprendre les faiblesses humaines. La première fois que Charles-André l'a vu, il était assis près du lit. Bonjour, vous allez mieux ? Charles-André ne répond pas. Le médecin continue. Je suis votre médecin, le docteur Lucien Bernard. Physiquement, vous êtes arrivé en mauvais état. Maintenant, il faut vous reposer et oublier certaines choses. Je ne vais pas vous poser de questions. Je sais que c'est désagréable. Je viendrai vous voir tous les jours. Et si vous voulez me dire quelque chose, vous pourrez me les dire. Et le médecin est venu le voir chaque matin, a regardé sa température, son pouls, prescrit des médicaments et lui a demandé s'il désirait dire quelque chose. Puis il est resté un quart d'heure, lui a parlé du temps, des nouvelles, de la vie, sans lui parler de lui. Ces discussions n'ont pas fatigué Charles-André et l'ont un peu distrait. Charles-André a vite vu que le médecin était très jeune, de sa génération. Il le trouve malgré lui charmant. Il se dit que s'il avait été dans d'autres circonstances, ils auraient pu être amis. Surtout que le médecin lui a parlé littérature et que ses goûts correspondaient aux siens. Comme on le laisse tranquille, il prend des forces malgré lui, se sent mieux physiquement et aussi moralement. Il arrive même à oublier son passé, le manque de drogue aussi, sûrement à cause des médicaments. La vie réglée, le calme, les repas normaux à heure régulière, le sommeil, il grossit et se sent mieux, encore vidé, mais mieux. Un matin, le médecin lui dit, « Je ne peux pas vous garder plus longtemps. Et puis, votre sœur m'a dit qu'elle a trouvé une petite maison au bord de la mer, dans un petit village qui s'appelle, je crois, Saint-Tropez ou quelque chose comme ça. C'est un petit village de pêcheurs. » Aussitôt sorti de l'hôpital, la sœur est venue le chercher avec des vêtements propres. Elle l'a aidé à s'habiller. Dehors, l'air et le bruit de la rue l'a étourdi. Il regarde sa chambre. Il regrette sa chambre, la douceur de son lit. Apolline appelle un fiacre et s'y engouffre. Elle donne l'adresse de leur immeuble. Ils ont cherché des bagages. Après, je vais vous mener à la gare. Le fiacre se met en route. Apolline dit à Charles-André, « Nous partons tout de suite, le médecin ne veut pas que tu restes en ville. La maison que j'ai trouvée, je crois, sera très bien. J'ai pu aller la voir, mais c'était trop loin et trop cher, mais je crois que ce sera bien. » Le fiacre s'arrête devant l'immeuble. Apolline dit, « Attendez ici, je vais chercher les deux valises. Je vais t'aider. Non, reste ici, tu es encore faible. » Elle sort du fiacre, entre dans l'immeuble. 5 minutes plus tard, elle sort avec les deux valises. Le cocher les lui prend pour les mettre derrière. Apolline entre dans le fiacre. Le cocher demande, avant de partir, « Où allons-nous ?»« Nous allons dans le midi, » lui répond Apolline. Arrivé à la gare, ils prennent leurs valises et entrent dans le hall. Il y a peu de monde. Apolline lui dit, « Viens prendre nos tickets. » Ils vont vers un guichet. « Bonjour monsieur, j'aimerais 2 places pour aller à Saint-Tropez. » En fait, la gare la plus proche, quoi. Le guichetier consulte son cahier, lui donne 2 tickets. Vous arrêtez au terminus. Quels 2 ? Ils y vont avec leur ticket. Attendent 1 quart d'heure sur le quai. Il fait du vent, ça sent le fer et le charbon. Enfin, le train arrive. On ouvre les portières pour que les voyageurs puissent entrer. Frère et sœur rentrent dans un compartiment de première classe. Ils rangent leurs valises dans le porte-bagages et s'assoient l'un côté de l'autre. Le compartiment s'ouvre. Ils voient entrer une grande jeune femme, à la main une petite mallette et une valise. Elle est habillée d'un manteau de voyage marine ouvert où l'on voit qu'elle porte une robe parme. Elle est mince, ses mains sont gantées de gants blancs. Elle porte un chapeau à voilettes blanc et marine, qui laisse voir des mèches de cheveux peignées en chignon blond. Elle leur demande, « Bonjour, la place qui est en face de vous est-elle libre ?» Apolline lui répond, « Oui. » Elle soulève sa valise pour la mettre dans le porte-bagages. Jean-André la lui prend, « Vous permettez ?» Et il la met, « Merci monsieur. » Et ils s'assoivent. La femme quitte son marteau. À la taille très fine, ses gants et son chapeau. Elle a les traits du visage extrêmement fins, blancs, purs, les lèvres un peu pulpeuses et rouges, de grands yeux bleus profonds. Charles-André est ébloui par cette jeune personne. Le frère et la sœur ne savent pas comment se tenir. Elle a déposé ses affaires à côté d'elle. Elle ouvre sa petite mallette pour en sortir un petit miroir et se ranger un peu les cheveux. Puis range la glace et met la mallette près d'elle. Frère et la sœur ne savent pas comment se tenir. C'est très désagréable d'avoir en face de soi un ou des inconnus. On ne sait pas comment où porter son regard, ni comment se tenir. On jette un coup d'œil au paysage, mais c'est très monotone. On voit des champs et des champs. Et puis la lumière du jour avec la vitesse fatigue. Alors on re-regarde le compartiment et on tombe nez à nez avec la personne inconnue, là où les personnes inconnues. Et le trajet va être long. Peut-être vont-ils aussi loin que vous. Charles-André la trouve très belle et la dévore des yeux. Cela le distrait de sa fatigue. Rester assis pendant des heures lorsqu'on est faible, cela n'est pas évident. Sa sœur le voit et lui demande « Tu vas bien ? Oui ? Pas mal au rein ? Ça peut aller. Parce que si tu veux, je peux te laisser la banquette pour que tu puisses t'allonger. » Il lui répond « Non, surtout pas. » Apolline dit à la jeune fille « Mon frère a été malade. J'ai peur que le voyage le fatigue. » La jeune fille sourit. Charles-André est furieux et se dit « La garce, elle l'a fait exprès. » La jeune femme dit à Pauline « Moi aussi j'étais fatiguée, mais je vais beaucoup mieux. » Pauline demande « C'était grave ?» Elle lui répond « L'on croit toujours que c'est grave et puis en réalité, l'on guérit tout. J'étais très angoissée, j'avais peur de tout. Je vivais dans un cauchemar, mais maintenant ça va. Je suis très calme. Père et mère disaient toujours que j'étais incapable de faire quoi que ce soit. » Bien sûr, ils étaient toujours après moi. Je ne pouvais rien dire, rien faire. J'étais toujours surveillé. Charles-André lui demande, vous viviez chez vos parents? Oui, il le fallait bien. Je rêvais de vivre seul, mais j'avais peur de le demander à ma mère. Vous comprenez, une jeune femme qui vit seule, cela ne se fait pas. Mais maintenant je pars. Apolline lui demande, vous allez loin? À Monte Carlo. Je vais rejoindre un ami. C'est une personnalité très importante de la famille impériale autrichienne. Nous le connaissons très bien. Je lui écris souvent. C'est un homme charmant. Ma mère disait toujours que nous formions un très beau couple. Apolline lui demande « Et vous allez le rejoindre ?»« Oui. » Charles-André lui dit « Il doit être heureux que vous veniez le voir. » Je le fais rougir et dit « C'est-à-dire que... oui ?» Il y a quelques instants de silence. Charles-André se dit tristement « Tant pis, elle est déjà prise. » Apolline se dit « Encore une amoureuse, une enfant gâtée. » La jeune femme dit « Cela fait des années que je rêve de faire ce voyage. J'ai tout préparé. Maintenant, je suis libre. On va me dire que je n'aimais pas mes parents. Mais si, seulement, je ne pouvais pas faire autrement. Si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas été capable de partir. Et puis, j'ai fait ça pour qu'il ne souffre pas. Tout était prêt. Même la serviette humide. Vous allez me dire, pourquoi une serviette humide? C'est pour qu'elle puisse poser. Et l'eau, ça étouffe aussi. » La porte du compartiment s'ouvre. Un employé demande. « Vous désiriez aller au restaurant, au wagon-restaurant ?» Apolline demande. « Oui, mon frère et moi. » La jeune femme dit. « Moi aussi. » L'homme note et dit. « Bien, dans un quart d'heure. » Et il part. La jeune femme dit. Vous êtes frère et sœur? Je croyais que vous étiez deux amoureux. Je vous prenais pour des amoureux. Vous avez l'air si mignon. Pauline lui dit. Merci. La jeune fille dit. Faut se préparer pour aller au wagon restaurant. Elle prend sa mallette, l'ouvre, prend un mouchoir, se mouche, se met un peu de poudre et range chez ses cheveux. Un homme passe avec une clochette dans le couloir. Charles-André dit. C'est le moment d'y aller. Ils se lèvent tous les trois. Apolline demande à son frère. Tu as faim? Non, pas vraiment. Mais je boirai bien. J'ai des fourmis. Elle lui dit. Fais attention, courage. Et ils sortent de leur wagon, se dirigent vers le wagon restaurant. Lorsqu'ils y rentrent, il y a déjà du monde. On leur trouve une table pour trois couverts. Une fois qu'ils sont assis et commandent leur menu, la jeune fille dit « Il paraît que la cuisine t'infecte au wagon-restaurant. » Apolline lui dit « Est tout de même mangeable. » Charles-André commence à être fatigué. Pour se donner un peu de force, il se sert un verre de vin. La jeune fille dit « Ma mère déteste faire la cuisine, alors elle nous faisait toujours les mêmes plats. Toujours cette viande à la sauce tomate, la soupe de légumes, les pâtes, le flan. » Apolline lui demande « Votre mère n'avait pas de domestique ?»« Non, elle détestait les domestiques. Elle disait qu'ils étaient incapables de faire des choses proprement. » Après une pause, Apolline lui demande « Vous allez habiter Monte-Carlo ?»« Non, nous habiterons sûrement l'Autriche ou l'Angleterre. » Après le repas, ils sont retournés à leur compartiment. Jean-André regarde le paysage. Apolline se détend. La jeune femme cherche dans sa mallette. Où ai-je mis mes ciseaux? Où les ai-je mis? Mon Dieu, si je les ai laissés là-bas. Mais non. Voyons. Après avoir sorti de la chambre, je suis allé à la salle de bain. Me laver les mains et le visage et les ciseaux. Ah, aussi, oui. Mais je les ai bien lavés. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire après? La catastrophe, si j'avais laissé là-bas. Je suis perdu. Je ne pourrai jamais approcher le prince si l'on m'accuse de... Mais non. Avant qu'il le sache, nous deviendrons amis et je pourrai tout lui expliquer. Jean-André se dit. Cette charmante petite poupée parle toute seule. Elle commence à être agaçante. Après des heures très pénibles, j'arrive enfin à la gare de... Ensuite, ils prendront un fiacre pour aller jusqu'au petit village. Le train s'arrête en gare. Il fait déjà nuit. Sortant du train, chacun a pris ses bagages. La fraîcheur et une odeur de campagne les prend. Ils sortent de la gare. La jeune fille leur dit « Au revoir et peut-être un de ces jours !» Le frère et la sœur la saluent. Deux hommes et un gendarme arrivent vers eux. L'un des deux dit à la demoiselle « Vous êtes mademoiselle Odette Wolf ?»« Oui, mademoiselle, voulez-vous nous suivre ?»« Pourquoi ?»« Parce que nous avons vous parlé de la mort de vos parents. » Mais je ne sais rien, et puis je n'ai rien à dire, et puis je suis innocente. Oui, les circonstances. Mais, mademoiselle, voulez-vous nous suivre? Parce que le prince le saura, vous aurez affaire à lui. Un ami me demande, vous connaissez un prince? Oui, vous le connaissez bien. Il vous connaît, lui? Bientôt, oui. Arrêtez de divaguer et suivez-nous. Elle hausse les épaules et dit « De toute façon, je vous assure qu'elle n'a pas souffert. L'étouffement était rapide. Les ciseaux, c'était juste des coups de grâce. Ça suffit, suivez-nous. » Un homme de chaque côté la prend au bras. Instinctivement, elle laisse tomber sa valise et part avec sa mallette. Les hommes ne font pas attention. Le frère et la sœur la regardent partir. Une fois qu'ils ont disparu, un cocher s'approche d'eux. « Vous voulez un fiacre ?» La sœur dit « Oui, pour Saint-Tropez. »« Bien, montez, donnez-moi vos bagages. » Ils donnent chacun leur valise et entrent dans le fiacre. Le cocher met les deux valises et la valise qui est à terre à l'arrière et ils partent. Charles-André dit « Quelle fille étrange !» Tuer ses parents. Apolline lui dit « Elle semblait tout de même bizarre. » On ne comprenait rien à ce qu'elle disait. La fraîcheur, l'odeur de fleurs, mélangée à une odeur marine, détend Charles-André. Malheureusement, la nuit ne leur montre pas le paysage. Pourtant, la route longe la plage. fait arrêter le fiacre au bord de la route, au début du village. Ils sont sortis de voiture, il fait nuit noire. Jean-André demande « Où se trouve la maison ?» Elle lui dit « Même contrebas, il y a un souvent petit chemin. Tu verras, la maison est au bord de la mer. » Le cocher sort les valises et demande « Où allons-nous, ma petite dame ? » ?»« Suivez-moi. » Jean-André voit trois valises, il ne dit rien. On prend un et le cocher et deux autres et ils suivent Apolline qui suit un chemin qui semble descendre dans la rocaille et les arbustes. Jean-André lui demande « Tu ne t'es pas trompé ? On n'y voit rien. » Et elle lui dit « D'après les indications, c'est bien ici. Et puis j'ai vu l'écriteau, la rocaille, bébé. » Après une petite descente, il tombe sur une masse blanche, plutôt aplatie, qui ressemble à une maison. « Tu vois, je ne me suis pas trompé. C'est bien ici. » On entend un va-et-vient d'eau. On dirait être la mer, une odeur très forte de fleurs. Tout au bout du chemin, on tombe sur l'entrée de la maison. Apolline cherche dans son sac les clés et ouvre la porte. On n'y voit rien. Charles-André, viens avec ton briquet. On va chercher quelque chose pour éclairer. Charles-André entre et éclaire avec son briquet. Il regarde autour de lui et trouve sur une commode une lampe à huile. Charles-André va vers la lampe, enlève le verre et essaye avec le briquet d'éclairer. Il y a encore de l'huile. Ouf, on y voit assez. Ils vont prendre les bagages du cocher. Apolline lui dit, excusez-nous, mais nous n'avons rien à vous donner à boire. Pendant ce sac de pièces, elle lui étend. Merci madame, au revoir. Et il s'en va. Apolline ferme la porte. C'est pas très grand, mais bien suffisant pour nous. Jean-André lui demande « Comment tu fais pour trouver ceci ?»« Par hasard, j'ai dit à une dame chez qui je gardais quelques heures son enfant que je cherchais une maison. Elle m'a proposé cette maison qui appartient à un de ses oncles. Il adore la pêche alors. Il vient de temps en temps ici. Bon, ce n'est pas tout. » Il commence à faire le tour. Regardez un petit peu. Apolline dit « Nous n'avons pas mangé. » Jean-André lui dit « Je n'ai pas faim, mais je tombe de sommeil. » Elle lui dit « Bon, cherchons les chambres et couchons-nous. » Ils suivent un petit couloir où se trouvent trois portes, la cuisine et deux chambres. La sœur prend la première chambre qu'elle donne à son frère. La pièce semble grande, mur nu, un lit à une place, une table de chevet, une armoire, une table basse et une chaise. Les meubles sont en rodin. Dessus de lit est beige. Il y a des draps, Charles-André dit. Les lits sont faits. Non plus, pas à les faire. Il pose sa valise au milieu de la pièce. Apolline l'embrasse. Elle lui dit, bonne nuit. Tu es sûr que tu ne désires rien ? Non, je tombe de sommeil. Alors bonne nuit. Elle le quitte. Charles-André se déshabille. Et se couche. Les draps sont froids et raides. Comme il n'y a ni rideau ni volet, La lune et les étoiles éclairent la pièce. En s'y habituant bien, on y voit comme en plein jour. Un décor noir et blanc, sans couleur. Et l'on entend toujours, en assemblement, le bruit de la mer. Et toutes ces images, ce bruit, ces phrases l'ont épuisé. Il sort de l'hôpital et le voilà, pris dans un tourbillon. Malgré tout, il s'endort. Une très mauvaise nuit, des cauchemars, le réveil en sursaut, et toujours ce bruit qui augmente, qui devient terrifiant, comme si un train entrait dans ses oreilles. Et le visage de cette femme qui parle sans arrêt, qui rit, c'est insupportable. Puis cette valise, vu cette valise à terre, une valise. Il se réveille, encore une fois en sueur, et voit que la lumière n'est plus la même que celle du jour, elle est décolore. Il fait grand jour, il fait soleil, s'étire dans son lit, n'a pas envie de se lever, se sent très fatigué, puis cette odeur infinie de sel lui donne envie d'opium. L'anxiété lui revient. En plus de la fatigue. Ça ne va pas revenir, ça ne va pas recommencer. Les frissons, les fourmillements, il lutte, mais contre quoi? Contre qui? Il n'y a rien. Il essaye de se raisonner. J'ai pas besoin de ça pour vivre. On a frappé à la porte. Entrez. C'est sa sœur. Elle voit qu'il n'est pas bien. Elle s'approche du lit. Toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il fait non de la tête et lui dit rien. Elle soupire, lui prend la main et lui dit: moi aussi, il y a des moments où je me sens pas très bien. Il hausse les épaules et lui dit: tu ne peux pas comprendre. Elle lui dit furieuse: ne dis pas ça. Moi aussi j'ai lutté. Et en plus, il fallait que je le fasse en cachette pour pouvoir travailler et avoir un peu d'argent pour payer nos dettes, ton hôpital et ici. Tu crois que c'était facile de cacher ce besoin? Toi, tu as eu de la chance d'être à l'hôpital et de le faire sans te cacher et être aidé. Moi aussi, j'en ai besoin. J'en ai autant besoin que toi pour m'aider à vivre. Mais je passe outre, car je pense à toi. Il lui prend la main et lui dit: je te demande pardon, j'ai eu un peu de cafard. Tu as fatigué. Fatigue d'hier. Elle lui demande: tu veux manger? Il est déjà tard. Je suis allé au village et j'ai trouvé du fromage, du poisson, du pain et des olives noires. Il lui dit: bien, je mange. Elle lui dit: alors lève-toi et viens me rejoindre à la terrasse. Tout est prêt. Une demi-heure plus tard, ils mangent tous les deux sur une table de jardin. Sur une petite terrasse qui est juste derrière la maison, de plein pied à la plage. Petite plage carrée, encerclée d'un côté de la mer, des deux autres, d'arbustes, de fleurs multicolores et de pierres blanches. La maison aussi est blanche. Ça sent les fleurs, la mer, le ciel est bleu, tellement bleu qu'il est roi. Il fait chaud. Jalandré dit, on dirait que l'on est dans une île déserte. Elle lui répond, oui, c'est merveilleux. Après le repas, ils ont décidé de rejoindre leur chambre pour faire leurs affaires. Apolline trouve dans sa chambre deux valises, dont une qui ne lui appartient pas. Elle va frapper à la chambre de Charles-André. J'aimerais savoir si la valise qui est en trop est à toi. Il s'approche de sa sœur et lui dit, j'avais oublié, Cochet a pris la valise de la jeune fille par mes gardes. Tu aurais pu le lui dire, c'est dangereux, nous devons nous en débarrasser ou prévenir les gendarmes pour qu'ils viennent la prendre. Il soupire et lui dit, puisqu'elle est ici, nous n'avons plus qu'à regarder ce qu'il y a dedans. Elle est furieuse et lui dit, tu as fait exprès de ramener cette valise chez nous, hein, pour voir ce qu'il y a. C'est pas quelque chose à prendre, c'est du vol. Il lui répond, voler une criminelle, c'est pas bien grave. C'est comme voler un voleur. Et puis que veux-tu qu'elle fasse de ses affaires maintenant? Elle ira en prison et après son jugement à la guillotine. Sûrement que ses biens iront à l'État. Elle a autant profité que c'est quelque chose. Il ose les épaules lui dit, qu'est-ce que tu crois qu'il y a dans cette valise? Des robes? Des nécessaires de femmes? Rien qui pourrait intéresser ou servir? Peut-être pas. Qui sait? Elle lui dit encore, et comment allons-nous nous en débarrasser? Nous allons nous faire prendre. Je la jetterai tout simplement à la mer. Allons voir ce qu'il y a dedans et nous verrons bien. Et les deux épaules, ils sortent de la chambre pour aller à celle d'Apolline. Il trouve dans la valise que des sous-vêtements féminins. Je te l'avais dit. Je te l'avais bien dit. Un trousseau de toilette et un paquet de lettres. Charles-André lui dit, donne-moi les lettres, je vais les lire. On ne sait jamais. Il lui tend en lui disant, oui, on ne sait jamais. Elle pourrait parler de l'emplacement d'un trésor. Il lui dit, idiote. Ça peut me donner une idée de roman. Tu as raison, il y a peut-être dans ses écrits un trésor caché qui peut faire ma fortune, l'idée d'un roman. Un portefeuille avec des billets et des pièces d'or. Il lui dit, tu vois, il y a pas mal de choses. Et elle lui dit, ça c'est moi qui le garde pour les dépenses. Elle trouve aussi une petite fiole avec un liquide rouge. Cette fiole lui fait un drôle d'effet. Sans rien dire, elle le met dans sa poche. Et la dernière chose, un livre à couverture grise. Et marqué dessus, la punition de Jules Bonlandin. Ceci lui fait quelque chose de voir imprimer le nom de son frère. Elle tend le livre à Charles André. Il regarde la couverture et dit « Quelle drôle de coïncidence. Une valise d'une inconnue nous ramène à notre famille. » Il continue à écrire ce chenapan. Je me demande ce qu'ils deviennent. Est-ce que tu crois qu'ils ont de nos nouvelles ? Elle lui dit « Je ne sais pas. » Il tient serré très fortement entre ses mains le petit livre. Elle lui dit « Si tu me permets, j'aimerais pouvoir le lire. » Il le lui tend. « Tiens, je lirai les lettres et après le livre. Tu vois, nous avons bien fait d'ouvrir la valise. » Elle lui dit « C'est ce que tu crois. Peut-être est-ce la fin pour nous de quelque chose que tu vas regretter. » Elle refermait dans la valise les vêtements, sous-vêtements, trousse de toilette, puis la referme. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? Il lui répond, les jetterons, ce soir à la mer. Elle se redresse, va à la table de toilette de sa chambre, ouvre le portefeuille et compte l'argent. Il y en a pour une bonne somme. Elle lui dit, nous allons un mois de tranquillité. Il lui dit, c'est bien bon. Je vais dans la chambre, lire les lettres, et il sort de la chambre. Elle prend le livre de son frère et va s'asseoir sur une chaise pour le lire à la fenêtre. Son frère, leur amour. Elle se souvient de sa gentillesse, de sa beauté, de ce gentil petit corps de jeunes adolescents qui étaient contre elle, de la douceur de sa peau, de ses baisers, de sa l'abondante chevelure qu'elle caressait lorsqu'il la baisait. Elle se rendit de lui, ouvre le livre, et commence à lire. Le livre, assez court mais bien écrit, raconte l'histoire de deux jumeaux qui s'aiment. Le garçon qui ressemble beaucoup à Jules et la fille à Apolline, dont le garçon, après avoir fait des dettes de jeu, raté ses examens, la mère ayant surpris les deux jumeaux ensemble, tout cela pour punir la mauvaise conduite de son fils. Qu'il traite de débauché, le père veut l'envoyer au Mexique où il y a des terres pour qu'il puisse s'occuper de ces terres et les faire fructifier. Le fils n'aimerait pas y aller. La mère dit au père que c'est une punition trop forte. La sœur dit à la mère qu'elle a fait un mauvais rêve et que son frère, s'il va là-bas, la mort l'attend. Elles vont toutes deux voir le père qui reste intraitable. Ça lui fera du bien. Il deviendra un homme. Ici, il ne sera qu'une mauviette au milieu de femmes. Le frère et la sœur passent une dernière nuit d'amour dans sa chambre à elle. Ils sont nus, alors c'est dans le lit, on entend le bruit de la nuit. Elle le conjugue de faire attention à lui, de ne pas y aller. Par n'importe où, mais pas au Mexique. Malheureusement, sa sœur ne peut pas le convaincre. Ma sœur aimée, si je faisais cela, mon père me couperait les vivres. Il lui répond en le serrant très fortement dans ses bras. Il vaut mieux avoir faim que de mourir de mort violente. Méfie-toi, dans mon rêve, une mante religieuse habillée de rouge te dévorera. Il lui sourit et lui dit « C'est qu'un cauchemar, rien de grave. » Elle lui répond « Peut-être bien, mais ce cauchemar me fait tellement, une telle impression. » Il l'embrasse et le matin, ils se disent adieu. Ils se promettent de s'écrire et lui dit « Je te promets de t'attendre toujours. » Et puis, ils s'écrivent de longues et tendres lettres. Lui raconte son voyage, le bateau qu'il a pris au Portugal, et avant de le prendre, il est resté une semaine là-bas. À son hôtel, il a fait la connaissance d'un comte français, élégant et beau, plus ou moins voleur de bijoux et de corps. Puis, la traversée l'a amené au Mexique. Il trouve le pays beau, mais sauvage. A retrouvé les pères de sa famille dans un piètre état, essaye de mettre de l'ordre. Un propriétaire très rien l'invite de venir festoyer chez lui. Là, il rencontre la fille de ce propriétaire, mi-bandit, mi-seigneur. Sa fille très belle, d'une beauté espagnole, grande, digne, sauvage, émouvante, peau blanche et cheveux très noirs. La fille l'ensorcelle. Sa sœur lui dit de se méfier. Il lui répond, l'amour que j'ai pour elle n'est pas du même essence que le tien. La sœur va implorer son père de faire revenir son fils. Un grand danger le menace, qu'il l'a assez puni. Le père dit qu'il ne le fera pas revenir. Le frère est amoureux fou de la fille. La famille un jour apprend qu'il se marie. Les parents sont heureux. La sœur panique. Il va bientôt mourir. Elle va le tuer. Elle supplie ses parents de faire revenir le frère chez eux. Le père lui dit d'arrêter sa jalousie. Le frère a des soucis d'argent. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.